BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
C'est votre caverne d'Ali Baba. C'est l'émission qui prend soin de vos petits trésors. Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business. Bienvenue pour cette nouvelle édition. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web et bien évidemment à retrouver en podcast. Alors, du pratico-pratique pour terminer la semaine dans Tout pour investir. Au lieu de marcher très très en forme, le CAC 40 qui rebondit, qui regagne les 8000 points haut la main. Tranquillement, on est au plus haut depuis fin mars. Quand même, on gagne 9% depuis le début de l'année. Ça donne à réfléchir. Alors, quelles conséquences pour vos allocations d'actifs, la répartition de votre petit trésor de guerre? On va détailler tout ça avec un beau déchiffrage ce matin. Fiscalité, opportunité, conjoncture de marché avec Marc Templeman de CashBee et Léa Lejeune de Plan Cash. Et puis, un bol d'air sur le CAC 40, c'est peut-être aussi l'occasion de réajuster votre plan de trading quotidien. On finira ça dans les arbitrages avec Dorian Abadie aujourd'hui de Meilleur Taux Placement. Vos investissements toujours, on en a parlé depuis la rentrée, c'est le moment de prendre soin de votre PER, de votre plan d'épargne retraite. Mais attention, c'est pas un placement comme les autres, encore une fois, on vous le dit, on vous le redit. On va bien en parler ce matin avec François-Xavier Sœur de Terrae. On va même le soumettre au crash test, votre PER, tous les bons conseils pour bien gérer, surtout éviter les erreurs. Parce qu'il y en a pas mal de potentiel. C'est jeudi, c'est jour des small et mid caps. On va prendre leur pouls avec Louis de Fels de Gay-Lussac aujourd'hui. Cap sur l'Isère avec quelques belles pépites locales qui marchent bien en bourse. On fera le point tout à l'heure. Et puis investir dans l'art, oui, on en parle souvent dans cette émission. Mais comment, pourquoi et en suivant quels objectifs précis? Fiche technique, béaba pour les débutants à retrouver en fin d'émission avec les spécialistes de la maison Christie's. Fin d'émission où le camarade Christopher Dembig de PicTM passera une tête pour vous annoncer le menu de sa masterclass de demain, comme tous les vendredis. C'est lui qui prend les commandes de Tout pour investir, la masterclass. Donc vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par mail direct à bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez un SMS au 732-16, tapez le mot-clé business suivi de votre message, ou sinon vous pouvez m'invectiver gentiment sur Twitter et puis je répondrai à vos questions en cours d'émission. Le reste de l'actualité du jour, il y a pas mal de choses. Shine qui poursuit donc son offensive en France et l'e-commerçant chinois qui prend d'assaut le BHV pour y installer son point de vente physique et permanent en plein cœur de Paris. Ce n'est qu'une première étape, puisque suivront 5 ouvertures dans des galeries Lafayette en région, elles aussi propriétés de la Société des Grands Magasins, la maison mère, la SGM, société de Frédéric Merlin qui le dit clairement ce matin, c'est une façon de créer l'événement, de créer le buzz. Dans l'actualité, cette enquête du parquet de Brest sur un pétrolier qui rôde près de Saint-Nazaire, c'est l'un des 3 navires soupçonnés d'avoir servi de plateforme à des lancements de drones qui ont survolé les aéroports danois. Il a été abordé dès samedi par les autorités françaises qui ont d'ailleurs placé 2 membres d'équipage en garde à vue hier soir. À la suite de délits maritimes, ce pétrolier étant accusé aussi de contourner les sanctions contre Moscou. Emmanuel Macron monte au front sur le dossier du SCAF. Vous savez, c'est le futur avion de combat européen nouvelle génération. Chef de l'État dit que c'est à Paris et Berlin de maintenir ensemble le cap dans l'intérêt général, alors que les industriels des 2 pays revendiquent chacun le leadership. Emmanuel Macron, qui dans cette interview à la presse allemande, annonce aussi qu'il se prononcera début 2026 sur l'actualisation de la doctrine nucléaire française. Bruxelles accélère sur le sauvetage de l'acier européen, mais devant des représentants de la filière hier, le commissaire Stéphane Séjourné a dévoilé les grandes lignes d'une nouvelle clause de sauvegarde pour l'acier, un programme offensif entre baisse des quotas d'importation et des droits de douane par 2. Ces mesures pourraient prendre effet à la mi-2026, et vous l'avez vu hier en bourse, on avait des très fortes hausses du côté d'ArcelorMittal, du côté d'Aperam, enfin bref, secteur de la métallurgie qui est quand même soulagé par ces annonces. Enfin, Washington se dit prêt à prolonger d'un an son accord avec les pays d'Afrique. Il faudra une réciprocité beaucoup plus marquée, préviennent les responsables américains. L'accord qui a expiré le 30 septembre permet notamment à de nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans droit de douane. Gros plan sur votre tableau de bord des marchés à présent.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Eh mais c'est qu'on est en train de bien terminer la semaine sur les marchés. Franchement, le CAC 40 qui ne se sent plus de joie. Désormais, on est au-dessus des 8000 points. 8050 points, une hausse d'1,05%. Vous vous rendez compte, là, en 2 séances, on est revenu sur des plus hauts qui dataient de fin mars. Donc, un beau ballon d'oxygène sur le CAC 40. Alors, dû à quelques pointes d'accalmie et quelques facteurs positifs dans les négociations commerciales du moment, que ce soit l'Europe et la Chine à propos de l'acier, que ce soit Europe, États-Unis, à propos de la Big Pharma. Donc, on sent un climat un petit peu plus apaisé à ce niveau-là et ça permet au CAC 40 de remonter sur ces niveaux-là. À noter la forte hausse de l'Eurostock 50 qui fait bien mieux, hein, plus 1,29%. On est à 1,26 de hausse sur le DAX à Francfort. À noter la très belle santé de la tech européenne encore avec un Euronext Tech Leaders qui gagne 2,2%. Alors, du côté des valeurs les plus regardées, les plus chouchoutées, le secteur automobile. Là, vraiment, chacun prend le relais l'un de l'autre. On a eu la tech, on a eu la métallurgie et les pharma hier. C'est l'automobile qui prend le dessus avec une forte hausse pour Stellantis qui gagne 7% à 8,71 €. Renault aussi, plus 2,5% à 35,88 €. Et un fonds de sauce un petit peu plus positif en ce moment pour un secteur auto qui a été vraiment massacré ces derniers mois. Une conjoncture qui était vraiment difficile. Là, pour le coup, on reprend très nettement de l'altitude. Les titres du secteur de la défense qui étaient vendus hier reprennent de la hauteur aussi, avec notamment Thales qui gagne 3,8% à 274,10 €. Eutelsat, dans le même ordre d'idée, qui prend 9,13% à 3,59 €. À noter aussi la tech qui se porte bien, avec donc des annonces d'investissement très conséquents d'NVIDIA du côté d'OpenAI, pardon, du côté des fournisseurs de composants en Corée du Sud. Et ça fortifie par exemple Soitec qui gagne 5% à 42,57 €, ou encore STMicro plus 24,64 €. Quelques titres à la baisse à signaler, or des valeurs plutôt défensives, plutôt conservatrices. On voit Orange, par exemple, signer la plus forte baisse à moins 2, 13,43 €. Engie, moins 0,56 € à 18,55 €. Des prises de bénéfices sur le SBF 120 autour d'Aperam, qui a flambé hier, hein, qui a gagné plus de 11% en clôture. Le spécialiste de l'inox, hein, qui était soutenu par cette série de bonnes nouvelles du côté des négociations commerciales entre l'Europe et la Chine. Et Aperam, là, repère 2,4%, pas grand-chose, à 30,10 €. Et puis à noter Euronext. Alors vraiment, depuis son entrée au CAC 40, le titre n'en finit pas de baisser. Il y a vraiment une déprime après son intégration. C'est le lot de toutes les sociétés fraîchement introduites au CAC 40. Faut pas s'inquiéter. Puis Euronext sortait de plus haut, très très intéressant. Là, pour l'instant, le titre perd encore 1,4% à 124,50 €. Un petit coup d'œil sur les taux obligataires. Le marché obligataire qui continue à se détendre légèrement. On redescend à 3,52 € aussi bien pour la dette française que la dette italienne, qui sont vraiment coude à coude là en ce moment. Il y a plus de spread, il n'y a plus d'écart de taux sensible. À noter du côté de la dette américaine qu'on redescend un petit peu à 4,1%. Puis un mot du pétrole, parce que vraiment, on a une dynamique de baisse absolument sensible en ce moment. Là, pour l'instant, ça marque un petit coup d'arrêt. On est à $65,44 pour le baril de Brent de mer du Nord. Et le brut léger américain essaie de rebondir du côté des 62, mais enfin, c'est difficile. On est à 61,85. L'once d'or fin reste au-dessus des $3,900. On est à 3,901. Allez, on part décrypter l'actualité tout de suite.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Alors, un climat un petit peu apaisé du point de vue commercial avec la Chine, avec les États-Unis. Un sentiment un petit peu plus positif, hein, du côté des actions. Et on voit un vrai bol d'air, hein, autour du CAC 40. J'en parlais il y a une seconde. Malgré tout, il reste nos basses considérations matérielles, capitalistiques. Les incertitudes du moment, faut pas les oublier. Et pour décrypter tout ça, pour déchiffrer tout ça, Léa Lejeune de Plancage, bonjour.
Bonjour.
Et Mark Templeman de CashBee.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce direct consacré évidemment à toutes nos questions patrimoniales. Léa, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine réflexion et en pleine incertitude budgétaire et il y a un truc qui pourrait mettre un coup d'arrêt à ce bol d'air sur les marchés dont profitent énormément d'investisseurs particuliers depuis quelques années qui se sont mis à la bourse. C'est la flat tax.
Oui, alors ça part d'une bonne volonté, je pense, de la part du gouvernement. Au départ, l'idée, c'est de rééquilibrer la taxation et l'imposition entre le travail et le capital. On sait que ces dernières années, c'est beaucoup les cadres supérieurs, les revenus du salaire élevés qui ont été taxés. Donc l'idée de départ, elle est pas mal. Simplement, le fait de conserver la flat tax, mais d'augmenter la flat tax, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de 30 à 36%, même si ça permettait de gagner 1,5 milliard d'euros pour le budget du gouvernement, ce serait problématique pour les petits épargnants et les classes moyennes. Pourquoi ? Parce que pour les classes moyennes, ça imposerait que leur capital serait taxé beaucoup plus que leurs revenus. Et on sait que depuis quelques années, notamment grâce aux fintechs qui ont permis de faciliter les investissements du grand public, on a des gens qui ont des petits revenus, des revenus moyens, vraiment issus du bas de la classe moyenne, qui se mettent à investir en actions en direct, dans des comptes titres, dans des PEA, etc. Et ces gens-là là, eh ben, ils vont se retrouver beaucoup plus taxés, à moins qu'ils n'utilisent donc le principe qui permet de remettre en question la flat tax et de passer une partie de la flat tax à la soumission à l'impôt sur le revenu. Mais ça, tout le monde ne sait pas que c'est possible. Ouais. Ça, ce n'est possible que sur une partie à peu près, un peu moins de la moitié des 30%. Et bon, ça complique beaucoup. Ouais. Et ça peut empêcher les gens qui sont volontaires de se lancer.
Oui, en fait, cette flat tax, finalement, le problème, si on regarde bien, c'est que c'est considéré comme une taxe pour riches. Mais il n'y a pas que les riches hein, qui se mettent à la bourse. On l'a vu ces dernières années. Alors, on a beaucoup de retard par rapport aux Américains, ça, on le dit suffisamment. Mais voilà, on risque de décourager les gens qui veulent prendre un petit peu plus de risques, un petit peu plus de rendement, financer peut-être de manière un petit peu plus concrète l'économie réelle. Enfin, vous me direz, c'est pas en achetant du Nvidia que ça va changer le paradigme. Mais enfin, voilà, on se retrouve avec peut-être une bonne idée à la base, mais qui reste de barrer non seulement une solution de financement, mais en même temps une solution d'épargne qui attire de plus en plus de monde.
Ben écoutez, je rebondis sur ce que vient de dire Léa, je ne peux que me joindre à ce qui vient d'être expliqué. Évidemment, la flat tax était d'abord une bonne idée parce que ça clarifie énormément de choses et ça rendait l'accès à des placements un peu plus risqués mais qui visent un rendement plus élevé beaucoup plus facile. Ça clarifie les choses. Avant, le système fiscal était très très complexe sur la taxation des plus-values. Il y a un mouvement réel, une volonté réelle depuis maintenant quelques années, si ce n'est des dizaines d'années, pour pousser l'épargnant français qui met beaucoup de côté, d'aller justement vers ces classes d'actifs qui, directement ou indirectement, financent l'activité réelle et qui sont aussi là pour financer l'économie, aider à la transition énergétique, refinancer le réarmement, enfin, et j'en passe.
Oui.
À ce moment où il y a cette dynamique qui existe, mais où on a encore beaucoup de retard par rapport à de nombreux pays, vous citez les Américains, mais je pourrais citer les Chinois comme je pourrais citer les Anglais, voire même les Allemands. C'est dommage de casser cette dynamique et je crains, sans en avoir la preuve, je crains qu'en augmentant la flat tax, on risque effectivement de calmer les ardeurs justement de ces classes moyennes qui enfin se mettaient à faire ce que les classes supérieures faisaient déjà depuis un moment, c'est-à-dire consacrer une partie de leur épargne à des investissements à risque.
Alors, cela dit, on a une actualité placement, une actualité investissement très intéressante cette semaine, venant d'un acteur qui est plutôt habitué à réguler les choses, à nous mettre des trucs en plastique pour éviter de perdre les bouchons avec les bouteilles, à ceci, cela, à beaucoup parler et à pas faire grand-chose. Ben non, l'Union européenne réfléchit à un support d'épargne dynamique européen. Et ça, c'est un sujet qui a intéressé tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que c'est un premier pas ? Est-ce que c'est une bonne intention ? Mais alors, attention à la mise en place. Mark Templeman, votre avis sur la question ?
Alors, effectivement, l'initiative qui s'appelle Compte d'épargne et d'investissement européen, abrégé en CEI, est censée pouvoir aider les Européens, à partir de sommes très modestes, on parle à partir de 10 euros, de transférer une partie de leur épargne, qui est gigantesque, et qui aujourd'hui dort. Donc la communauté européenne a publié un chiffre qui, selon lequel 35 000 milliards d'euros dormiraient sur des supports, soit des comptes courants, soit des livrets peu investis dans l'économie réelle, pour aider ces gens-là à mettre une partie de cette épargne, pour des sommes encore une fois très modiques, sur un compte dont le but est de flécher cet argent vers l'économie réelle européenne, donc favorisant les entreprises européennes, idéalement dans l'innovation, et donc de prendre un peu plus de risques, par rapport à quoi la promesse serait que sur le moyen et le long terme, le rendement serait également meilleur. Il y a quelques inconvénients. L'idée est parfaite. Hein. Enfin, l'idée est très bonne. Si on veut vraiment démocratiser l'épargne et démocratiser l'investissement, l'idée tient parfaitement. Le premier sujet, c'est que l'Union européenne n'a pas la main sur la fiscalité. Donc, l'Union européenne ne peut que dire et encourager les différents pays à faire en sorte que ce compte ait un certain nombre d'avantages fiscaux pour les épargnants, mais qui vont probablement varier d'un pays à un autre. Or, en France, il y a déjà pas mal de dispositifs à levier fiscal où la fiscalité donne un avantage à l'épargnant. Je peux penser au PER, je peux penser au livret A. Et donc, la vraie question, c'est comment la France va implémenter la création d'un compte d'épargne et d'investissement Et peut-être que Léa, vous avez des idées là-dessus.
Alors ça moi, ça va vous intéresser forcément.
Alors c'est... moi, ça m'intéresse dans, dans l'idée de démocratisation. Mmh. Mais honnêtement, je me dis que pour les Français, c'est inutile. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà le PEA quand même, qui flèche l'épargne des Français vers les actions des entreprises françaises ou européennes, qui nous incite plutôt à acheter ça qu'aller acheter des ETF, S&P 500 ou des actions américaines de la tech, et qui a déjà une fiscalité limitée. Alors je vois bien l'intérêt pour d'autres pays européens, dont peut-être je ne connais pas toute la fiscalité, effectivement. Mais pour la France, je ne vois pas ce que ça apportera de plus que le PEA. J'attends qu'on me détrompe.
Disons que le truc, ça peut être aussi une question de performance, dans le sens où on passe notre temps à dire que le CAC 40, que les marchés européens ont du retard par rapport aux autres marchés européens, et notamment à cause de nos histoires de pondération, du luxe, de certaines valeurs. Ça peut être aussi un garant de meilleure performance si on se met au diapason européen, là, pour le coup.
Oui, mais il y a aussi cette idée qu'on peut aussi investir en tant que petit épargnant dans, par exemple, le DAX, dans des autres indices que celui du CAC 40, et diversifier notre portefeuille et essayer de dépasser un peu ces surreprésentations du luxe et autres problèmes franco-français.
Oui, Marc. Une dernière remarque sur ce sujet pour rejoindre ce qu'il vient d'être dit. Quand on appelle quelque chose un compte d'épargne et d'investissement, ce que je crains un tout petit peu en France, c'est qu'il y ait confusion. Parce que ce compte d'épargne et d'investissement, il sera clairement à risque. Le capital ne sera pas garanti. Oui. À l'inverse d'un livret bancaire et à l'inverse du livret A. Donc, il y a probablement aussi une réflexion à mener sur la nomenclature.
Bon, un premier pas peut-être intéressant, mais enfin, vous le voyez, qui suscite pas mal de questions aussi. On va parler opportunités d'investissement, mais alors là, sur quelque chose de très basique, mais en même temps qui fait l'actualité, c'est l'or. Et j'ai de plus en plus d'intervenants qui me disent qu'il faut s'exposer à l'or, mais à tel point que ce qui fait bouger le marché de l'or en ce moment, c'est évidemment la dédollarisation, les risques sur l'économie américaine, la perte de crédibilité du dollar et le fait que les banques centrales à travers le monde en accumulent pour éviter de s'exposer aux actifs américains. Mais au-delà de ça, on va finir par avoir un marché qui réagit à la demande des particuliers, parce que là, ça devient phénoménal et on a de plus en plus de particuliers qui veulent s'exposer à l'or. Alors, sur ces cours-là, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est un gadget ? Est-ce que c'est de la hype ? Marc Templeman, quel est votre avis ?
Alors, c'est pas de la hype, c'est pas un gadget, mais c'est un actif risqué. Donc, soyons clairs, nous, quand on parle à nos clients, on leur conseille d'en avoir, pour ceux qui sont patrimoniaux, mais d'en avoir pour une petite partie du portefeuille. Parce que, rappelons-le, l'or n'est ni plus ni moins qu'un métal qui ne génère en lui-même aucun revenu, contrairement à plein d'autres actifs. Maintenant, tous les éléments que vous avez mentionnés, la dédollarisation, l'achat par les banques centrales, et même depuis très longue date, l'achat par certaines populations dont la culture impose l'achat d'or. Enfin, je pense notamment à l'Inde. Quand vous combinez tous ces facteurs et que vous rajoutez la sauce Trump qui fait peur à tout le monde, et on sait bien quand il y a des inquiétudes, quand il y a des craintes sur le marché, l'or reste une valeur refuge, font que c'est probablement une classe d'actifs différenciante, réellement diversifiante, et qui a probablement sa place dans un portefeuille.
Léa Lejeune.
Oui, moi j'étais surprise quand vous disiez que c'était un actif risqué, parce que moi je reste encore un peu dans cette idée que c'est une valeur refuge, quand la bourse baisse, l'or a plutôt tendance à augmenter, etc. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui s'intéressent et qui se posent la question aujourd'hui, alors que c'est au plus haut. Vous savez un peu cet adage qui dit que si ça finit au journal de TF1, ça veut dire qu'il est déjà trop tard pour investir dedans. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que des petits épargnants se jettent sur l'or aujourd'hui, parce qu'effectivement, on en parle tous les mois, depuis 12 mois ou 18 mois, tout le temps, avec ces chiffres records. Et tant que l'instabilité géopolitique reste là, et on y est encore sur Israël et sur Gaza, sur l'Ukraine, rien n'est encore réglé. Je pense qu'il y a une tentation à aller se mettre dessus. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, pour les personnes qui veulent s'exposer, mettre des petit ticket, faire du DCA, donc Dollar Cost Average, en mettant un tout petit peu tous les mois pour essayer de lisser les fluctuations du marché, et surtout pas faire un all-in ou mettre une somme importante de son capital aujourd'hui, alors que c'est au plus haut et que ça va bien finir par baisser à un moment, même si on ne sait pas quand.
C'est pas tout le monde en plus qui a les moyens d'acheter un lingot, ou même les pièces, elles sont devenues super chères.
Oui, mais alors après, il y a aussi les ETF et tous les fonds qui permettent d'acheter des dérivés d'or.
Alors, dernière question, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. C'est vrai qu'on fait, on brosse un petit peu là, on reste dans une atmosphère de rentrée, d'arbitrage. Quels sont les principaux placements qui vous permettent de défiscaliser là en ce moment les principales demandes des clients. En ce moment, ça touche quel plan d'épargne plutôt PER. On va y rester hein, d'ailleurs.
Nous, c'est 100% PER parce que c'est vraiment le placement qui intéresse. Donc pour défiscaliser à la fin de l'année, et je pense que nous on y est jusqu'en décembre. Quoi, énormément de questions sur comment on fait. C'est quand même très facile aujourd'hui. On peut ouvrir un PER en quelques minutes en ligne. Il faut toujours penser à se renseigner sur les frais de gestion parce que c'est ça qui va grignoter du rendement chez les particuliers. Et puis, même chose, peut-être pas mettre d'un seul coup des sommes importantes, mais aussi répartir sur les prochains mois de l'année. Mais oui, le PER, ça reste le plus important, et notamment pour deux catégories de population, les personnes qui sont imposées à plus de 30%, où on voit un vrai gain sur l'imposition, et les personnes entrepreneurs, ou avec une situation professionnelle qui n'arrête pas de changer, où là, pour le coup, ça permet de sécuriser. Et je rappelle aussi que si on dit toujours que le PER est bloqué, et donc ça peut poser un problème au moment du retrait. En fait, il y a tellement de clauses où finalement on peut le sortir en cas d'arrivée en fin de droit, de décès d'un conjoint, d'achat d'une résidence principale. Bref, on peut vraiment investir sur le PER sans prendre trop de risques par rapport à tout ça.
Marc Templeman, c'est le placement de la rentrée, le PER.
Le PER, on rentre en pleine saison jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Et c'est le probablement l'outil le plus utilisé, le plus répandu. J'en mentionnerai un second, qui est le fonds commun de placement en innovation.
Le FCPI,
c'est plus risqué, c'est pas pour tout le monde. L'argent est réellement bloqué pendant au moins typiquement 8 ans, mais
comme une assurance vie.
Oui. L'assurance vie, non, on peut faire.
On peut retirer.
Oui, bien sûr. Là, je parlais des conditions fiscales.
Voilà, tout à fait. Là, le FCPI. Mais en revanche, à la grande différence du PER où ça vous permet de déduire une certaine somme de votre assiette imposable, la FCPI donne droit à une déduction de votre montant, des impôts directement.
D'accord.
Et donc ça a un impact fiscal probablement plus fort. En parallèle de quoi, il faut bien comprendre les risques qui viennent avec. Ouais. Sinon, pour revenir sur le PER, je ne peux que souscrire à la remarque de faites attention aux frais. Ouais. N'oubliez pas qu'un PER peut se transférer sans frais, sans coûts, sans impact fiscal, si vous êtes mécontent du vôtre.
Allez voir votre conseiller, en tout cas. C'est véritablement le conseil qu'on donne dans TPI. Puis écoutez-nous aussi, on apprend des tas de choses. Merci beaucoup, Marc Templeman de CashBee, Léa Lejeune de Plan Cash. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer l'actualité. Tout de suite, on se penche sur le cas du CAC 40, qui connaît une très belle phase depuis quelques jours.
Tout pour investir. Arbitrage.
Avec Dorian Abadi ce matin, Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement, bonjour, et donc le CAC 40 qui nous fait un breakout, on va dire, depuis deux jours, on regagne les 8000 points, les plus hauts qui datent de la fin mars. Est-ce que la configuration change pour autant? Parce que là, on vient de passer plusieurs caps symboliques.
Bonjour Antoine, effectivement, vous l'avez dit, on est de retour sur les niveaux de fin mars. Une hausse de 1,15% ce matin, on est autour des 8060 points, et puis finalement un gain de 10% depuis le début de l'année. Alors surtout l'indice français, grâce à cette hausse d'hier et d'aujourd'hui principalement, revient à moins de 3% de son record historique. Donc on reste de notre côté sensiblement sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire les 8100 et 8165 points par extension à court terme comme objectif pour les acheteurs, et ceux des 8000 et 7925 points pour les vendeurs. Alors c'est vrai qu'on voit surtout Stellantis qui se distingue en tête du CAC ce matin, avec une hausse de près de 7% après une forte progression de ses ventes de véhicules aux États-Unis. Et puis plus largement, on a toutes les grandes places européennes qui évoluent dans le vert, dans le sillage de Wall Street qui a atteint de nouveaux records historiques hier soir.
Effectivement, et puis une volatilité qui semble s'effriter un petit peu. On est à 16 points sur l'indice VIX. Dorian, est-ce qu'il y a un secteur, est-ce qu'il y a un actif spécifique que vous regardez en vous disant, tiens, il se passe peut-être quelque chose et qui est un peu trop sous les radars?
Absolument, le pétrole en ce moment qui baisse assez fortement. Hein, donc ça constitue une bonne nouvelle pour l'inflation. Potentiellement un argument supplémentaire en faveur de nouvelles baisses de taux. Vous savez bien sûr que les baisses de taux, c'est ce qui alimente principalement la hausse des indices. On a toujours globalement des investisseurs qui font le pari de nouvelles baisses en fin d'année. Donc cette baisse du pétrole justement alimente ce scénario. On a une offre qui est clairement surabondante au niveau mondial en ce moment. Le cartel pétrolier d'ailleurs de l'OPEP+, s'apprête à augmenter encore sa production. On parle de 137 000 barils supplémentaires par jour à partir de novembre. Bon, son objectif est clairement d'augmenter ses parts de marché, quitte à brader ses prix. Alors, c'est vraiment un sujet sensible et effectivement qui passe un peu sous les radars, parce qu'on a l'Irak qui a également fortement augmenté sa production ces derniers jours. Et le marché surveille aussi les attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes, qui pourraient à court terme enrayer cette tendance baissière sur le pétrole, sans pour autant la remettre durablement en question. Donc on a un baril de Brent qui perd 12% depuis le début de l'année, pardon, et qui s'échange désormais autour des 65 dollars.
Il y a aussi un facteur, bah évidemment, dans le sillage, on a beaucoup de pression autour des pétroliers. Moi, il y a un score qui retient mon attention, c'est moins 13% pour Total depuis 6 mois. C'est devenu la 8e pondération du CAC 40, alors qu'avant, il caracolait en tête. Il y a même eu une période et plusieurs années où ça a été la plus forte pondération de l'indice. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact continu sur les cours des grandes valeurs pétrolières, cette espèce de breakout vers le bas du pétrole, des cours du pétrole?
Bien sûr, alors c'est évidemment tout le sujet. Encore que dans le cas de Total, on reste convaincu chez Merto Placement que ça reste une excellente action à avoir en fonds de portefeuille, singulièrement pour son dividende, d'autant que c'est l'une des rares entreprises qui le verse de manière trimestrielle. Donc c'est une entreprise de très grande qualité qui investit massivement d'ailleurs dans la transition énergétique. Donc c'est vrai que le pétrole reste évidemment prépondérant naturellement dans son activité, mais ça risque d'être de moins en moins le cas dans les prochaines années, prochaines décennies. Donc on garde un biais totalement positif sur Total Energy à moyen et à long terme.
Oui, parce qu'on se posait la question, mais d'ailleurs avec Guillaume Sommerer dans son émission BFM Bourse de 15h30 à 18h, et ça fait quand même quelques semaines qu'on se pose la question de savoir si Total a annoncé aussi une cotation du côté de Wall Street, donc le titre Total va coter en journée en Europe et va continuer à coter le soir du côté de Wall Street, et on a beaucoup d'investisseurs qui se demandent si c'est vraiment utile, si ça va vraiment apporter de la profondeur de marché au titre Total. Est-ce que vous pensez que c'est un argument de plus ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu gadget, ça? Quel est votre regard là-dessus?
Pour nous, c'est relativement secondaire, d'autant qu'actuellement, plus de la moitié de l'actionnariat de Total est déjà nord-américain. Déjà américain, oui. Voilà. Donc, en réalité, Total ne vient qu'acter ici un fait déjà très concret, très palpable sur le marché.
Merci infiniment, Dorian Abadi, meilleur taux placement. Merci d'avoir été avec nous pour nous confier votre plan de trading pour le CAC 40 et donc pour le pétrole, Total y compris, hein, bien sûr. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. Hein, je vous rappelle l'adresse directe à bfmbusiness.fr où vous nous envoyez un SMS au 732-16, vous tapez le mot-clé business suivi de votre question. Vous pouvez me joindre sur Twitter, sur X, bien sûr, pour poser vos questions et j'essaierai d'y répondre en cours d'émission. Restez avec nous dans quelques secondes après la petite pause traditionnelle. On va parler PER, on a commencé à défricher le sujet, mais on va faire du pratico-pratique dans la boîte à outils. On va parler également Small et Mid Cap. Ah oui, c'est jeudi, journal des Small et Mid Cap. Et puis, investir dans l'art, on vous en parle souvent. Comment commencer? Comment faire ses débuts sur l'investissement dans l'art, hein? On va tout reprendre depuis le début. Petite fiche technique avec les spécialistes de Christie's. Restez à l'écoute de Tout pour Investir. À tout de suite.
Tout pour Investir, l'actu du patrimoine.
La boîte à outils de votre émission, on est en train de l'ouvrir, de sortir tout pour vous aider à comprendre un des placements qui commence, du point de vue de la dynamique, à prendre de l'ampleur. C'est le moment d'en parler, évidemment, parce que c'est la rentrée. C'est votre PER et nous sommes avec François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine chez Terrae. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Antoine.
Je disais en sommaire, on va faire un petit peu le crash test de votre PER parce que c'est un placement de long terme qui fait ses preuves, qui manque pas d'intérêt. Maintenant, il y a 2 ou 3 bêtises, 5 même, à éviter à tout prix pour pas transformer ça en véritable souci.
Je me suis limité à 5 parce qu'on est limité au niveau du temps, parce que je pourrais en faire 12 ou 13. Hein. Très sincèrement, j'ai essayé de réduire. Le souci du PER, alors c'est très bien le PER, c'est super, mais on en parle trop.
Et en fait, il y a une vraie hype autour qui déforme un peu le...
Alors, je vais être un peu... Pas démago, mais j'ai l'impression que les vendeurs de Pinel se sont transformés en vendeurs de PER. Donc, j'ai un souci aujourd'hui.
Ils ont vendu du private equity il y a quelques mois. Bon,
c'est un autre sujet, mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Quand on fait un plan épargne retraite, il ne faut pas aller chercher un produit de défisc. C'est un produit avec un avantage fiscal. Alors, je vais vous faire la plus belle analyse que vous allez entendre aujourd'hui. Un plan épargne retraite, c'est un plan épargne retraite. C'est-à-dire que si vous en faites autre chose que de l'épargne retraite, vous en serez déçu parce qu'il y aura forcément un contre-coup. Ça a vraiment été prévu pour vous faire un complément de la retraite de revenus. Ouais. Si jamais vous le faites pour autre chose, vous vous ferez reprendre à un moment nécessairement.
D'accord. Donc on reste sur l'objet principal. Exactement. De cette solution d'investissement.
Il faut se méfier en fin d'année, parce qu'en fin d'année, là, on attaque le dernier trimestre et vous allez avoir les appels, les pubs, etc. Vite, 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 c'est la fin de l'année, il faut faire la défisque. Non, c'est pas parce que c'est la fin de l'année, il faut faire la défisque. Comme le disait Mark Templeman juste avant, faites attention sur un PER, parce que vous pouvez avoir des frais assez élevés, peut y avoir des droits d'entrée, peut y avoir des frais de gestion, peut y avoir de la gestion pilotée, etc. Des choses où vous cumulez des couches de frais. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un investissement avant tout, avec un objectif fiscal, c'est ni plus ni moins qu'un contrat d'assurance vie avec une option retraite, un PER.
C'est ça, ouais.
Donc, il faut quand même pas l'obliger. Pas l'oublier. Et il faut faire attention à ne pas le faire aussi en toute fin d'année. Parce qu'en fin d'année, il y a beaucoup de souscriptions qui arrivent chez les assureurs. Si jamais vous le faites après Noël, il y a un petit peu de risque que votre dossier soit oublié entre la dinde et la bûche. Donc, essayez de le faire quand même au plus tard, au début du mois de décembre.
C'est tout bête, mais il faut vraiment penser à ça.
C'est,
oui.
C'est idiot, mais
grosse
c'est
opération.
Hyper important.
Ouais,
et comme je vous disais, un plan épargne retraite, c'est une assurance vie avec une option retraite. Donc, qui dit assurance vie, dit clause bénéficiaire. Faire extrêmement attention à la clause bénéficiaire. Parce qu'il y a des gros avantages. Alors, vous pouvez désigner donc vos bénéficiaires, mais si jamais vous ne le transformez pas en rente au moment où vous décédez, il faut faire attention à ce que la fiscalité dépend de l'âge auquel le titulaire décède.
D'accord.
Si vous décédez avant 70 ans, c'est l'assurance vie, c'est la fiscalité de l'assurance vie. Donc, 152 500 euros par bénéficiaire. 190i du CGI. Si vous décédez après 70 ans, c'est une fiscalité successorale. Donc,
et là,
rajoutez à la succession au-delà de 30 500 et qui compte tous les autres contrats assurance vie après 70 ans. Donc, généralement, la petite stratégie, c'est de dire avant 70 ans, je peux faire une clause bénéficiaire démembrée ou je désigne les enfants. Et après 70 ans, généralement, on désigne le conjoint survivant.
Et puis, là où il ne faut pas se tromper non plus, c'est sur ce qu'on met dedans. Et bon, on a énormément d'intervenants, je dois vous dire, qui nous disent... Le temps long, c'est l'occasion de prendre un petit peu plus de risques, dans le sens où voilà, les performances sont lissées, si c'est par exemple de la bourse, c'est le syndrome de la bonne surprise, waouh, ça a bien grimpé sur 10 ans.
Parce qu'il faut l'oublier,
il faut savoir oublier
son investissement.
Ouais, c'est ça.
Et le plan épargne retraite, si vous avez 40 ans et que vous mettez du fonds euro, donc garantie en capital, ça n'a aucun sens, mais aucun.
Oui.
Vous avez 20 ou 25 ans devant vous. Probablement 25 d'ailleurs. Mais vous avez énormément de temps devant vous. Vous avez le temps, et vous en prendrez des moins 40. On peut le dire, dans les 30 ans à venir, on se prendra des années à moins 40. Des années à moins 40. Et derrière, il y aura des années formidables qui permettront de remonter. Et c'est comme ça qu'on construit de la performance. Les actions à très long terme, ça monte. Vous pouvez faire du private equity, vous en avez parlé, on peut en mettre dans un PER avec toutes les limites qui vont avec, soyons d'accord. Mais avec un horizon très long, c'est compatible avec du plan épargne retraite.
Donc, vous aussi, vous conseillez de prendre du risque, d'investir dans des actions et dans la bourse.
Les actions, naturellement, ça monte à long terme. Donc, à très long terme, faites de l'action, prenez du risque.
Ouais, voilà. Alors, en fait, le PER, c'est un petit peu un paradoxe. Il faut à la fois le choyer parce que c'est notre épargne retraite, mais en même temps, savoir l'oublier à d'autres moments quand on choisit le support d'investissement. Ah,
les investisseurs, généralement, je le vois de plus en plus, c'est quand ils ont des PE. Quand ils ont des PE et qu'ils ont investi dans l'entreprise et qu'ils l'oublient pendant quelques années et qu'ils se disent « Ah, mais ça a vachement bien fonctionné !» Et ils sont surpris de ce qu'on peut faire en bourse. Mais parce bien qu'en sûr. Fait, ils ont su l'oublier à un moment. Et c'est important d'oublier ces actions.
Bon, sinon, on reste dans un environnement législatif légèrement mouvant, comme tout le monde s'en est aperçu. Là, on a parlé de la possibilité d'un rehaussement de la flat tax.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres menaces sur les questions patrimoniales à venir dans les réflexions gouvernementales, enfin futures gouvernementales ?
Liées au PER ou d'une façon générale ?
De manière générale, pour votre épargne là. Les signaux d'alerte, ils se situent où selon vous ? C'est ça ma question.
En fait, moi, le signal d'alerte principal, il se situe sur l'instabilité en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que comme on a de l'instabilité, les gens n'investissent pas. Et je le vois, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise en clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repoussent les investissements, ils repoussent les recrutements. Et on le voit, mais la bourse française, bon, il y a d'autres raisons que bien évidemment des raisons purement géopolitiques, mais si on est à la bourre, c'est parce qu'il y a cette instabilité sur les autres indices euro-européens.
Oui, bien sûr. Oui.
Et c'est ce qui bloque aujourd'hui. Donc les menaces aujourd'hui sur le patrimoine, c'est cette instabilité avant tout, c'est l'état d'esprit que ça crée au niveau des investisseurs. Donc aujourd'hui, un rehaussement massif de la fiscalité, que ça soit sur le plan du patrimoine, forcément ce n'est pas rassurant. Puis on le voit aussi au niveau de l'immobilier. Aujourd'hui, au niveau de l'immobilier, il y a cette question de la fiscalité sur l'immobilier qui est extrêmement lourde.
Je vous rappelle la punchline quand même de la directrice de Nexity, dont on a beaucoup parlé hier, qui nous dit que c'est plus rentable d'investir en immobilier.
Elle a raison.
Ouais.
Mais elle a raison, mais pourquoi vous avez des files d'attente? Parce que les gens cherchent un appartement, mais vous n'avez personne pour investir dedans.
Ouais, ouais.
Ça prouve bien que c'est un investissement pour lequel vous aurez un rendement, mais le rendement entre quand vous investissez dedans et le moment où vous le percevez dans la poche, il fiche le camp. Il fiche le camp littéralement. J'ai des clients là qui m'ont demandé encore lundi soir de calculer la rentabilité de leurs investissements immobiliers. Ils l'ont fait il y a 2017-2018. Bah, ils sont à la moitié de la perf d'un livret A. Aujourd'hui, net de fiscalité.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est quand même la grande, grande, grande difficulté qu'il y a aujourd'hui sur le plan des investissements immobiliers, c'est que la fiscalité est extrêmement lourde. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un PFU pour l'ensemble des investissements du patrimoine? Ça pourrait être une solution, quitte à le relever. J'ai envie de dire quitte à le relever.
Oui, mais au moins, ce serait clair, net, précis.
Et voilà, au moins, on fait un PFU. Puis alors, aujourd'hui, il y a quand même ce côté totalement fou d'avoir une fiscalité pour le meublé et pour le nu. Pourquoi à Paris, vous voulez vous meubler, vous loger à Paris, louer un appart à Paris, vous n'avez plus que du meublé. Vous
n'avez plus
d'appartement loué nu. Pourquoi? Parce que c'est plus favorable sur le meublé que sur le nu. Mais c'est une hérésie. Ça n'a aucun sens.
Effectivement.
Il y a quand même un grand coup de simplification à faire.
Oh, ça depuis le temps qu'on le dit. Bon, on espère que ça va arriver. Au moins, peut-être un petit peu de stabilité avec la nomination d'un nouveau gouvernement, un ministre de l'économie un petit peu carré dans ses idées. On va
espérer. Plus facile à dire sur BFM Business que sur d'autres médias.
Oui, peut-être bien. Merci, c'est un compliment. François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine chez Terrae, merci d'avoir été avec nous pour décortiquer donc le PER et puis parler un petit peu de l'immobilier. Et tout de suite, on va parler des small et mid-cap, c'est jeudi.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Et on est en direct avec Louis Defels de Gay-Lussac Gestion. Bonjour Louis. Alors vous revenez du grand rendez-vous du patrimoine qui était du côté de Lyon et vous nous avez concocté un petit panier de valeurs à suivre. Tout d'abord, peut-être faire un point sur les indices small et mid cap, nos petites et moyennes capitalisations cotées en bourse. C'est vrai qu'on voit un gros appel d'air là en ce moment sur le marché parisien, avec des indices qui marchent bien. Est-ce que c'est la même chose pour les indices small et mid?
C'est vrai que les indices small et mid cap depuis le début de l'année sont en hausse de 14%. Donc c'est vrai que sur le mois de septembre, ils ont repris leur hausse en hausse de quasiment 2,4%. Rappelez-vous, fin août, ils étaient en baisse de 1%, notamment à cause des problèmes de gouvernement. Mais voilà, après, dans l'indice les plus 14, il y a une grande diversité, disparité. Ça a été surtout boosté par les valeurs de la biotechnologie. Vous savez, la fameuse Abivax qui a pris plus de 1000% depuis le début de l'année a entraîné tout le secteur. On peut parler de Nanobiotics qui a quasiment pris plus de 100% sur le mois de septembre, Medincell plus de 38%. Valneva, etc. Donc, il y a le secteur, en effet, de la biotech, les fameux secteurs de la défense aussi qui boostent à fond l'indice depuis le début de l'année. Vous avez vu des sociétés comme Excel Technologies, comme Exosens qui sont en hausse de plus de 100%, même Lumibird. Donc voilà, c'est des thématiques qui marchent bien. La thématique de l'aérospace aussi, avec des valeurs comme Figeac et Lizzie qui sont en hausse de plus de 100% depuis le début de l'année. Donc voilà, il y a une grande disparité, sachant qu'il y a des très belles valeurs de qualité qui font pas grand-chose. Nous, vous savez, on aime beaucoup les belles valeurs de qualité de croissance familiale comme Neurone, Gérard Perrier, Steph, Roberté. Tout ça, c'est des valeurs qui sont entre moins 5 et moins 10%. Donc, grande disparité et donc beaucoup de stock picking à faire.
Effectivement. Alors, vous étiez donc à Lyon pour Patrimonia il y a quelques jours et ça vous a permis de prendre le pouls auprès des opérateurs de terrain et de rencontrer des petites sociétés, des small et mid cap. Alors, vraiment local, on cap sur l'Isère, parce qu'il y a du grenoblois dans la place. On va commencer par Thermador. Et c'est vrai que c'est une société qui est très intéressante. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on parlait tout le temps de Vortis pour l'équipement de l'aération de la maison. Et désormais la marque est intégrée au groupe Thermador. C'est le génie climatique impliqué, si on peut dire.
Oui, c'est un peu un grossiste spécialisé donc dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les piscines. Ils font vraiment beaucoup 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 de choses. Donc ils sont très très liés à l'industrie et au fameux PMI manufacturier français. Et c'est vrai que depuis 2 ans, la société est en décroissance organique. Donc post-Covid, il y a eu beaucoup d'investissements. Et voilà. Et là, Thermador nous dit, parce que eux vendent à des professionnels qui eux-mêmes vendent après souvent à des particuliers, nous disent que tous leurs clients vont bien, mais ils ont vraiment le pied sur le frein. Ça fait 2 ans que ça ne repart pas, que ça soit dans la construction, c'est compliqué, dans la rénovation aussi, c'est compliqué, dans le bricolage, c'est compliqué. Néanmoins, on sent que c'est en train de frémir, et ça avec les problèmes un peu de politique, on sent que ça va repartir. En tout cas, ils sont prêts, les équipes sont prêtes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette fameuse visibilité que l'on voit, mais le groupe reste très bien géré, donc voilà, c'est un groupe familial comme on aime bien, mais voilà, c'est vrai que ça reste mou, mais en tout cas, on espère qu'après 2 années de décroissance, 2026 devrait être enfin l'année du rebond.
Ben, gardez à l'œil, hein, parce que pour 6 mois, je regarde, plus 10%, et puis c'est vrai que ça a un rendement qui approche des 3%, donc c'est quand même un groupe à regarder de près. 73,60€, là, le groupe qui gagne 1,1% sur la séance d'aujourd'hui. Une autre société de la région de Grenoble, ça s'appelle Samse, et Sams. Je sais pas comment.
Samse, exactement. Samse. Groupe Samse. Les hommes en bleu. Voilà, mais c'est un groupe qui a plus de 100 ans, qui est un distributeur de négoce de matériel. C'est un peu comme un Saint-Gobain ou un Point P. Voilà, ils ont aussi une partie bricolage. Et c'est une société qui est extrêmement bien gérée, qui a racheté pendant quasiment un an aussi que le concurrent qui était plus dans l'ouest de la France, VM Matériaux. Et c'est vrai que c'est un peu comme Thermador, post-Covid. Bah, il y a eu un boom et depuis 2 ans, le groupe souffre pas mal de la macro assez morose en France. Et c'est vrai que là, on les a vus. Donc, le groupe est très, très bien géré. C'est extrêmement bien géré par cette société. Mais on voit que avant la deuxième partie de 2026, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, la construction, vous savez, il y a un vrai déficit de construction et de logement en France. Mais le problématique, c'est qu'en plus, en 2026, il va y avoir les municipales, donc il y aura peu de permis de construire qui vont être faits. Donc c'est très mousse, un peu comme Thermador. On sent qu'ils sont prêts à repartir à fond. Les équipes restent motivées malgré le contexte un peu compliqué. Mais voilà, c'est une société qui est extrêmement bien gérée, qui est revenue à des niveaux de valorisation extrêmement faibles que je n'ai jamais vu. Donc la société rachète ses titres. Ils ont encore acheté 1,6% de leur propre action récemment. Donc voilà, c'est un peu le syndrome de la France en ce moment. C'est des valeurs très bien gérées, mais sans grand momentum. Donc on espère vraiment, on attend, on fait le dos rond et on attend la deuxième partie de 2026 pour que les résultats de l'entreprise repartent parce que c'est un groupe extrêmement bien géré.
Et les chiffres qui démontrent ça, c'est assez implacable parce que c'est un titre qui perd un peu plus de 13% depuis le début de l'année, mais parallèlement qui verse un rendement de quasiment 6%. Donc, ça reste vraiment de la valeur de qualité à regarder. On sort de l'Isère, on se rapproche plutôt de Lyon, c'est Jacquet Métal. Bah oui, là aussi, une valeur qui est typiquement dans votre scope et qui a le portrait robot des valeurs que vous aimez bien.
C'est vrai que Jacquet Métal, c'est une valeur donc lyonnaise extrêmement bien gérée par Monsieur Éric Jacquet, donc qui porte le nom. Et c'est un distributeur d'acier spécialisé. Donc, c'est vraiment leur métier, c'est de faire d'être un stockiste d'acier. Donc, ils achètent en grande quantité, puis après, ils revendent en petite quantité. Et c'est vrai que pareil, c'est un peu comme les deux autres sociétés, sachant qu'elle est beaucoup plus internationale. Ils font que 10% en France, plus de 20 ou 30% en Allemagne, ils font 15% aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un groupe mondial. Mais pareil, la société avait bénéficié au début du fameux plan allemand que beaucoup pensaient. Vous savez, le fameux plan de 500 milliards. Et eux, qui sont très exposés en Allemagne, nous disent, pour le moment, on voit rien du tout. C'est pour ça que les small et mid cap ne font plus grand chose depuis, en tout cas allemande, depuis le mois d'août. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup d'annonces. Et en revanche, on le voit pas encore dans les chiffres. Et c'est vrai qu'ils disent que beaucoup de sociétés qu'on a vues nous disent que ce fameux plan allemand va pas arriver avant 2026. Et c'est la deuxième partie de 2026. Donc voilà, c'est vrai que cette société qui est très axée sur la macroéconomie et tout, je leur ai demandé, mais quand est-ce que vous allez repasser les commandes? Est-ce que vos clients se remettent? Et ils disent non, pas encore. C'est encore trop tôt. Donc c'est vrai que c'est des sociétés qui sont dans beaucoup d'ébauchés industriels comme l'automobile, mais pas que, comme l'aéro, etc. Nous disent c'est encore trop tôt. Voyez, on attend que ce fameux plan allemand arrive et là on se remettra. Donc voilà. Mais en revanche, le point commun de ces trois valeurs en conclusion, c'est de dire que leurs clients vont bien, mais que par l'ambiance un peu morose, les clients n'investissent pas encore, mais en tout cas, ils sont presque le jour où ça repartira fort. Et ça, les trois sociétés l'ont dit. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. On fait le dos rond, mais on pense sincèrement que la deuxième partie de 2026, si ça repart et quand ça va repartir vraiment très fort.
Ouais, Jacquet Métal qui bénéficie quand même d'un vrai attrait de la part des investisseurs boursiers. Le titre gagne quand même 20,5%, ce qui reste quand même une performance hein, avec toutes les incertitudes du moment, mais qui pourrait se retrouver justement un nouveau souffle. C'est le cas aujourd'hui, hein, puisque le titre gagne un petit peu plus de 2,6% avec les mesures européennes qui ont été décidées pour lutter contre le dumping chinois d'acier pas cher. Donc ça pourrait être un catalyseur de plus. Merci infiniment, Louis de Fels, Gay Lussac Gestion. On a fait le point sur les small et mid cap. Restez avec nous. On va terminer cette émission sur le marché de l'art avec les spécialistes de Christie's. Comment commencer à investir dans le marché de l'art? À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Et dans notre coffre-fort, évidemment, il y a de l'art. On en parle beaucoup dans cette émission, des investissements dans l'art. Mais comment on investit dans l'art et pourquoi? Allez, on va reprendre les choses depuis le début. Ça va être le B.A.B.A., investir dans l'art, le starter pack. Et pour en parler, nous sommes avec Victoire Jeunesse de Christie's. Bonjour.
Bonjour.
Alors, au milieu de tout ça, bon, Christie's, c'est une maison de vente très connue. Au milieu de tout ça, dans une optique d'investissement dans l'art, pour que ça prenne de la valeur, pour garder ça sous nos yeux et vraiment voir littéralement l'art prendre de la valeur, parce qu'on l'a en sa possession, quel est le rôle d'une maison d'enchères?
Alors, je dirais avant tout que quand on veut commencer une collection, commencer à acheter de l'art, il faut parler d'achat-plaisir. L'investissement, c'est jamais la bonne approche. Il faudra avant tout acheter quelque chose qu'on aime et avec lequel on a envie de vivre. L'art, c'est quand même un actif qui est distinctif. C'est un marché qui est assez volatile, le marché de l'art, qui est fluctuant en tout cas. Donc, il faut acheter des choses qu'on aime.
D'accord.
Avant tout.
Alors, vous, concernant le profil des personnes qui seraient tentées d'investir dans l'art, vous nous faites un portrait robot qui tourne autour de quatre points essentiels. Vous appelez ça les 4D. C'est quoi exactement?
C'est plutôt les moments de sa vie où on va être amené à fréquenter une salle des ventes, ce qu'on appelle la théorie des 4D, et qui sont des moments un petit peu sensibles de la vie, décès, dette, divorce, déménagement. Bon, ça, c'est le D le plus joyeux. Et c'est ces moments-là où on va avoir besoin peut-être de prendre conseil, plutôt du côté, sans doute, de la vente.
D'accord.
Donc là, parce que la maison de vente, elle vient aussi bien conseiller à l'achat qu'à la vente, la bonne stratégie, le bon moment. Mais dans ces moments-là, on peut avoir besoin effectivement de se séparer de son patrimoine artistique ou alors de faire des arbitrages, d'en conserver une partie parce que la génération d'après, dans le cadre par exemple d'une succession, va s'y intéresser, mais va peut-être pas s'intéresser à tout et va choisir de s'en séparer. Après, la maison de vente, elle vient aussi apporter simplement de l'inventaire, c'est-à-dire donner une valeur à des biens qu'on possède déjà, une collection d'art qui fait déjà partie de son patrimoine.
Alors, vous avez constaté, c'est un peu comme quand on regarde les investisseurs sur le marché actions, il y a aussi un vrai renouvellement des profils dans le marché de l'art, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent faire fructifier leur patrimoine, en même temps, beaucoup d'achats-plaisir, et là, on est typiquement dans le profil qui va de plus en plus aller vers les maisons de vente, vouloir faire des collections et vouloir faire fructifier une forme de patrimoine quand même.
C'est vrai, et effectivement, cette Gen Z, elle arrive souvent chez nous par le pool, ce qu'on va appeler le pool luxury, les montres, les sacs à main, les bijoux, le vin, les voitures, qu'on a intégrées aussi dans les objets que nous dispersons aujourd'hui chez Christie's. Et c'est souvent une porte d'entrée parce que c'est parfois plus facile. On a l'opportunité d'avoir des ventes en ligne, donc c'est une pratique avec laquelle ils sont plus à l'aise, peut-être que la salle des ventes, qui parfois peut être un peu impressionnante. Et c'est une première façon de les capter et de les amener après vers les beaux-arts, vers peut-être d'abord le design, la peinture plus contemporaine, et puis après même de convertir au-delà en apportant une forme d'éducation aussi, de culture, de curiosité. On a la chance d'avoir des spécialistes, et c'est la force de notre maison de vente à Paris, mais la force des autres aussi, d'avoir des spécialistes passionnants et passionnés qui vont partager leur savoir avec ceux qui ont envie de l'acquérir.
Alors, une autre clientèle qui est très intéressée par le marché de l'art, ce sont les entreprises. Et ça, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On se dit, non, le marché de l'art, c'est quelque chose qu'on veut pour soi. Oui, mais soit on peut avoir une entreprise Et puis, on a envie de la rendre belle avec de l'art, avec du beau à l'intérieur de son entreprise. Et ça, c'est une clientèle aussi que vous voyez de manière croissante.
Alors, c'est vrai, et c'est tout à fait une approche intéressante. L'art, ça apporte aussi du lien social. C'est une façon de... Enfin, c'est du team building. Hein. Ça peut être du team building
du
pour
concret.
Une entreprise.
Ouais.
De se dire, tiens, chaque année, on va acquérir un certain nombre d'œuvres pour un certain montant. C'est une façon de faire participer aussi parfois les salariés de l'entreprise. Et puis, on a une législation en vigueur encore en ce moment, pour l'instant, qui peut être favorable à des achats par les entreprises. Donc, on voit se développer cela et on est là aussi pour accompagner aussi bien les particuliers que les entreprises dans les acquisitions d'œuvres d'art.
Et puis, d'un mot, il y a aussi des services, des pratiques nouvelles, un petit peu novatrices, qui permettent de s'exposer au marché de l'art, mais sans forcément l'aspect pompier de la chose, la salle des ventes, ceci, cela. Non, maintenant, il y a tout un tas de dispositifs dont vous pouvez nous parler. Là, il nous reste une petite minute, mais ça peut intéresser les auditeurs aussi.
Vous avez raison, on a ce qu'on appelle les ventes privées, qui sont des ventes où on met directement, nous, la salle des ventes, en lien, un acheteur et un vendeur, qui sont hors du calendrier des ventes aux enchères, qui sont plus discrètes, qui assurent en tout cas la même sécurité à l'achat, avec les mêmes garanties, mais qui permettent effectivement de faire dans un temps peut-être un peu plus long, parce que c'est vrai que souvent, quand on veut acheter aux enchères, on a l'exposition la veille, la vente le lendemain, et la décision doit être prise de manière un peu rapide. Et il y a aussi une financiarisation du marché de l'art autour du principe des garanties, notamment, où un acheteur potentiel va se positionner avant une vente, garantir une œuvre d'art et pourra soit l'acquérir peut-être à un prix plus intéressant, soit toucher des honoraires pour le risque pris.
Victoire Jeunesse de chez Christie's. Merci d'avoir été avec nous. C'était la fiche technique dans le Starter Pack. Si vous voulez vous mettre à investir sur le marché de l'art, achat plaisir, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Antoine.
Tout pour investir sur BFM Business.
Et oui, c'est le week-end pour moi parce que demain, c'est comme d'habitude Christopher Dembig de Pictet AM qui va prendre les commandes de cette émission. C'est sa masterclass et il passe une tête dans l'émission pour nous en parler. Bonjour Christopher.
Bonjour Antoine.
Alors c'est vous le chef demain, c'est quoi le menu pour cette fin de semaine?
Alors comme vous le savez, on a toujours un thème, on va parler de risque géopolitique. C'est un thème qui revient régulièrement, vous l'abordez aussi régulièrement dans vos émissions. Et on aura un invité qui nous vient tout droit de Washington, de l'Atlantic Council, et qui va nous donner notamment aussi la vision de l'administration Trump. On sait qu'il est très bien introduit auprès de la Maison-Blanche, donc ça va nous donner quelques indices pour savoir à peu près ce que la Maison-Blanche prépare dans les prochains mois et les prochaines années.
Merci infiniment Christopher Dembig, un invité exceptionnel effectivement, à ne pas louper, et puis bien sûr toutes les analyses, tous vos conseils très précieux qui enrichissent cette émission. À demain Christopher, et nous on se retrouve cet après-midi dans l'émission de Guillaume Sommerer, Tout pour investir, 15h30, 18h. D'ici là je vous laisse avec Marie Cœur de Roy, ce sont les experts de l'IMO, à plus tard.
Tout pour investir sur BFM Business.